Et Vincent Loquet, qui est mon invité ce matin entre 9h et 10h. Vincent est avocat. Bonjour maître.
Bonjour.
Vous répondez chez nous aux questions liées au droit du travail.
Donc exactement.
Tout ce qui est contrat, heures supplémentaires.
Rupture de contrat, licenciement, voilà. Rupture conventionnelle, heures supplémentaires.
Et alors uniquement, on va le dire, dans le secteur privé.
Exactement.
Hein, le secteur public, c'est autre chose. Si vous avez des questions à poser à Vincent, petit coup de fil au 03 83 36 20 20, plutôt en début d'émission. Voilà, parce que souvent en fin d'émission, y a trop d'appels et on n'arrive pas à tous vous faire passer. Alors nous aussi, Vincent, on a notre petit feuilleton à épisode que l'on suit depuis quelques semaines maintenant. C'est la fameuse, je ne sais pas si c'est une mise en demeure, mais de l'État français par l'Europe, puisqu'on est la journée de l'Europe aujourd'hui, de se mettre en conformité avec le droit européen sur la question des congés payés lorsqu'on est malade. Vous nous rappelez le début de l'histoire ?
L'enjeu, c'était de savoir si le droit français pouvait se mettre en conformité avec... la jurisprudence européenne, en ce sens que pour les salariés qui sont en arrêt de maladie, la règle jusqu'à présent était que ceux qui sont dans le cas d'un arrêt de maladie normal n'acquièrent pas de jours de congés payés, à la différence de ceux qui étaient en arrêt de maladie pour maladie professionnelle ou accident du travail. Donc, sous la pression de la jurisprudence européenne, l'État français a été obligé de se mettre en conformité. Alors, il y a eu différents mois qui se sont écoulés depuis le 13 septembre, date de la décision de la Cour de cassation qui demandait à la France d'appliquer le droit européen. Et finalement, l'épisode prend fin là ce 24 avril 2024 par une loi qui est donc entrée en vigueur.
Donc ça y est, c'est fait.
Ça y est, c'est fait. Oui, oui. Voilà. Donc la règle aujourd'hui, c'est que tous les salariés en arrêt de maladie, que ce soit pour arrêt de maladie non professionnel ou professionnel, continuent à acquérir des droits à congé dans les limites. Dans une certaine limite, hein, 24 jours au maximum pour une maladie non professionnelle par an, et avec la possibilité que ces jours qui sont acquis pendant les arrêts de maladie, eh ben, on puisse les prendre de façon générale pendant une durée de 15 mois.
Et alors c'est rétroactif, parce qu'on a eu pas mal d'appels dans cette émission, encore il y a 4 semaines, Vincent, vous vous en souvenez, de salariés nous disant, moi je suis allé voir mon employeur en lui disant, voilà ce que dit le droit, et l'employeur, à juste titre, ces dernières semaines, disait, j'attends, rien n'est paru, donc pour l'instant, statu quo. Qu'est-ce que peuvent aller dire les salariés aujourd'hui ?
Bien aujourd'hui, les salariés qui sont en cours de contrat peuvent aller voir leur employeur et leur dire voilà, et remonter jusqu'en 2009. Vous vous rendez compte ?
2009 ?
2009, c'est-à-dire 15 ans en arrière.
D'accord.
Et si vous avez, au cours de ces 15 ans en arrière, eu des périodes en fait, d'arrêt de maladie qui auraient dû générer, en application donc, de la loi des congés payés, vous êtes en droit d'aller solliciter votre employeur pour... remettre au compteur, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, les congés payés en l'occurrence. Et ça, vous pouvez le faire. Alors, quand le contrat de travail est rompu, par contre, hein, parce qu'il y a des situations où le contrat de travail est rompu, en fait, vous disposez d'un délai en fait, de 3 ans après la rupture du contrat de travail pour agir en conséquence.
Il va y avoir des situations inextricables,
bien
si je suis en retraite, par exemple.
Mais non, mais bien sûr, il va y avoir des situations inextricables. Et puis surtout, moi, ce que je plains en fait, à la date d'aujourd'hui...
C'est les employeurs
C'est les employeurs et puis les experts comptables qui vont devoir faire les bulletins de salaire. Non, mais en fait, on en rigole, mais... parce que en fait, les congés payés, en l'occurrence, ne sont pas forcément indemnisés de la même façon selon qu'on est en maladie professionnelle ou non professionnelle, même s'ils sont décomptés. Parce que pour ceux qui sont en non professionnel, c'est 80% de la rémunération, et pour ceux qui sont professionnels, c'est 100%. Enfin bref, il va y avoir des situations assez complexes à gérer, outre le problème financier.
En tout cas, ça y est, c'est passé.
C'est
donc
passé,
on peut mettre, mettre en route la demande à son employeur.
Ouais.
Ce matin, on avait une ligne ouverte, comme nous sommes aujourd'hui le 9 mai, journée de l'Europe, et que les élections européennes approchent, où l'on demandait aux auditeurs de France Bleu s'ils allaient voter. On a entendu pas mal de gens dire « l'Europe, ça n'apporte rien au quotidien ». On voit que là, pour le coup, pour les salariés, c'est une avancée. En tout cas, la France, elle n'était pas d'équerre.
C'est une avancée. Bien évidemment, on voit que l'Europe apporte en la matière. Certains, en fait, disent aussi dans les commentaires, mais finalement, c'est totalement contre-courant par rapport à l'idée que le travail doit être valorisé, en fait. En ce sens que finalement, les droits deviennent quasiment identiques, que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas. Donc, en fait, il y a tout un débat intéressant sur ce sujet-là qui peut s'instaurer. Mais c'est vrai que c'est une démonstration flagrante que l'Europe apporte quelque chose.
Bouger les lignes. Voilà. Si vous avez des questions à poser alors sur ce sujet de congés payés à rattraper ou sur d'autres, vous n'hésitez pas, un petit coup de fil à Vincent Loquet, il est avocat. On parle de droit du travail ce matin, 03 83 36 20 20. On parle de droit du travail ce matin avec Vincent Loquet qui est avocat au 03 83 36 20 20. Vincent, ce qu'on vient de dire fait réagir. Il y a beaucoup d'appels au standard de France Bleu pour vous poser des questions. On va accueillir Florence, qui nous appelle de Blainville-sur-Lot. Bonjour Florence.
Bonjour.
On vous écoute, Florence.
Voilà, j'aurais une question. J'ai été licenciée en décembre 2023 Et j'aurais voulu savoir si c'était possible pour réclamer les congés en étant en maladie.
Bah, bien sûr, Florence.
C'est toujours possible.
C'est toujours possible. Alors déjà, par rapport à un licenciement, vous disposez toujours d'un délai de 12 mois pour le contester. Et puis, s'agissant des congés payés, si avant votre licenciement, vous avez connu des périodes d'arrêt de maladie, c'est ça, hein, Florence ?
Oui.
Voilà.
Oui, avant, oui, oui.
Donc, et que vérifiez sur vos bulletins de salaire, mais je ne pense pas que l'employeur de lui-même ait régularisé la situation, vérifiez si pendant votre arrêt de maladie, vous avez bénéficié ou pas de votre droit à congés payés. Et je vous le rappelle, c'est 2 jours et demi.
2 jours et demi par,
oui. Par mois.
Par mois, d'accord.
Par mois. Et si, en fait, tel n'est pas le cas, vous disposez d'un délai de 3 ans, puisque le contrat est rompu, pour faire la réclamation et éventuellement assigner votre employeur devant le conseil de prud'homme. Je précise juste, pour votre cas, Florence, que je ne connais pas la durée de votre période d'arrêt de maladie, mais en tout état de cause, vous pouvez récupérer au maximum 24 jours de congés payés par an.
D'accord.
Et que s'agissant de l'indemnisation de ces congés payés que vous n'avez pas eu et qui ne vous ont pas été accordés, vous allez acquérir 2 jours de congés payés par mois. Donc je résume, si vous avez été absent pour maladie non professionnelle avant la rupture de votre contrat de travail, vous allez avoir un droit à congés payés de 2 jours par mois.
2 jours par mois, d'accord. Vous avez été, pardon de la question Florence, en longue maladie ?
C'était en maladie professionnelle.
Ah, c'est alors, la maladie professionnelle.
Alors, si c'est en maladie professionnelle, et ça a duré plus de 1 an ?
Oui.
Alors, si vous étiez
moi,
en...
Oui.
Pardon. Je vais essayer d'être précis sur le sujet. En fait, avant cette loi dont j'ai parlé ce matin, les salariés qui étaient en arrêt maladie professionnelle avaient un droit à acquérir des congés payés, mais limité à 1 an.
D'accord.
Et depuis donc la nouvelle loi, cette limite d'un an n'existe plus pour les maladies professionnelles. Donc, si vous avez été en maladie plus d'un an...
Elle peut récupérer le surplus, en
exactement,
fait, c'est ça.
C'est
d'accord.
Ça.
Et c'est votre cas, Florence ?
Oui. Moi, j'ai été en maladie avant et après, c'est passé en maladie professionnelle.
D'accord. Donc, il y a 2 périodes, du coup.
Il y a la période
en maladie et la période en maladie professionnelle. Et l'entreprise, c'est une grosse entreprise, Florence, ou c'est un particulier ? Non, c'est une grosse
entreprise. C'est une entreprise.
Une entreprise classique, je veux dire.
Oui.
OK.
Bon,
alors, avec la différence, juste précision, dernière précision, Florence, pour les périodes où vous étiez en maladie non professionnelle, c'est 2 jours par mois.
Oui.
Et pour les périodes où vous étiez en maladie professionnelle, c'est 2,5.
Donc là, c'est bien les 2,5. Voilà. Qu'est-ce qu'elle doit faire rapidement, Florence, la marche à suivre ?
Ce qu'elle doit faire, Florence, c'est en premier lieu envoyer un courrier à son employeur.
Oui.
Après avoir fait le décompte de ce qui lui est dû, pour avoir une information précise, et demander par recommandé avec accusé de réception d'avoir le paiement de l'indemnité correspondante.
Et puis on voit la réponse de l'employeur,
exactement.
Soit il le fait, soit il ne le fait pas, et là on passe à un litige un peu plus...
Le cas échéant, tout à fait.
Voilà Florence.
D'accord, je vous remercie beaucoup.
Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, elle est intéressante votre question, parce que c'est vrai qu'on parle des congés payés, mais quid des RTT, c'est bien ça ?
C'est un souci de RTT.
Ouais, on vous écoute. Quel est votre souci ?
Ma fille qui est infirme, qui est assistante sociale, qui travaille à l'hôpital en tant que contractuelle.
Ouais.
Elle était contractuelle jusqu'à maintenant en fait. Et je suis un peu soufflé, je faisais un peu de sport.
C'est bien.
Jusqu'en janvier, en fait, elle avait 9 RTT à poser sur un compte épargne temps parce qu'en fait, vu la charge de travail à l'hôpital, il n'était pas possible de les prendre. Donc, en fait, son encadrement lui a demandé de les poser sur un compte épargne temps. Et en fait, il s'avère que 2 mois après, le contrat n'est pas renouvelé.
Ah.
Donc, du coup,
quid des RTT.
En fait, elle risque de perdre ses congés, en fait.
Ah, d'accord.
Alors, c'est RTT ou c'est congé, Michel ?
Pour moi, ça revient au même. En fait, c'est 7 heures par jour. En fait.
Ouais.
En fait, il s'avère que c'était des RTT.
D'accord. Sauf que s'ils ont été mis sur le compte épargne-temps, au moment de la rupture du contrat de travail, le compte épargne-temps va être soldé. Donc, elle aura le paiement des jours considérés.
C'était l'objet de ma question. Est-ce qu'elle peut... Parce qu'en fait, là, son encadrement lui dit... trop de charges de travail, donc vous ne pourrez pas prendre les 9 jours de congé, enfin de RTT.
Oui, mais s'ils sont sur le compte épargne-temps, en fait, ils ont été capitalisés.
Ils seront payés.
Ils seront payés.
Tout à fait.
Hein, tout à fait. C'était ça la question, Michel ?
Oui, en fait, c'est une obligation de les payer
oui.
Le cas où, en fait, elles ne puissent pas les prendre.
Bah oui, dans la mesure où, en fait, en plus, le contrat va être rompu puisqu'il n'y aura pas de renouvellement, hein, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Voilà. Ah, oui. Mais alors, simplement, à destination aussi quand même des auditeurs, le régime des RTT n'est pas le même que le régime des congés payés. Hein.
D'accord.
Que ça soit bien clair, c'est-à-dire qu'autant on a un droit à report de congés payés si on ne les prend pas. Par contre, les RTT, si vous ne les prenez pas dans le délai qui est imparti généralement l'année, en fait, ils ne sont pas reportables sur l'année suivante.
D'accord, sauf si on les met sur un compte épargne-temps.
Sauf si on les met sur un compte épargne-temps. Oui. Donc ça, c'est la meilleure des choses qui soit pour votre fille, Michel, ça.
Ouais, d'accord. Voilà. Voilà, Michel.
Par contre, quelles sont les démarches à faire? C'est auprès de les ressources humaines. En fait,
alors,
il faut qu'elle fasse une démarche, une demande
non,
de paiement.
Ça doit se faire automatiquement, Michel. C'est-à-dire que quand le contrat va être rompu puisqu'il n'est pas renouvelé. Donc, au moment où le contrat est rompu, il appartient à l'employeur de solder les comptes, entre guillemets.
D'accord.
Donc, on va lui payer ses congés payés normaux et on va lui payer son compte épargne.
Il faut qu'elle vérifie, c'est tout.
Voilà. Et si elle s'aperçoit que les 9 jours en question n'ont pas été payés, bah, il faut qu'elle fasse la démarche par écrit.
Voilà. D'accord. Merci, Michel. Je vous en prie, rapidement.
Mon information rapidement.
Oui, je vous en prie.
En fait, il va s'avérer qu'elle va certainement se faire embaucher dans une clinique privée. Est-ce que le compte épargne-temps peut être transféré
il peut être transféré, mais dans ce cas-là, il faut qu'elle en fasse la demande.
D'accord.
Alors, est-ce qu'elle a intérêt à le faire? Ça sera à votre fille de le déterminer.
D'accord.
Est-ce qu'elle veut vraiment? Est-ce que c'est aussi le souhait du nouvel employeur de voir transférer
se
son
bouler,
compte voilà. Donc ça, je pense que voilà, à elle de déterminer la chose. Quoi.
Merci Michel. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Au revoir. 03 83 36 20. Beaucoup d'appels ce matin au Standard de France Bleu pour poser des questions à Vincent. Vincent Loquet qui est avocat. On parle de droit du travail.
Bonjour.
On est avec Vincent Loquet. Il est avocat. C'est le droit du travail ce matin.
Bonjour,
dans votre
Fanny.
Service. 03 83 36 20. Alors Fanny, vous êtes à Domèvre-sur-Vezouze. Quelle est votre question?
Alors en fait, voilà, je travaille en agricole et j'avais des problèmes de bras assez fréquemment. Et on m'a décelé un syndrome du déchilé cervico-thoracique et un canal carpien bilatéral.
Mmh. Donc inaptitude.
Donc voilà, donc j'ai demandé une inaptitude à la médecine du travail. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait plusieurs demandes de rupture conventionnelle à l'employeur. Et sans réponse, le premier recommandé, il l'a accepté et les suivants, il les a refusés.
D'accord.
Et donc en fait, l'avis d'inaptitude a été posé au 11 avril, donc il a jusqu'au 11 mai pour trouver une solution pour une réadaptation de poste.
Ah, le 11 mai, c'est samedi ?
Oui.
D'accord, oui.
Et du coup, je voulais savoir quel recours j'ai si jamais au 11 mai, il n'a rien proposé.
Vous êtes en arrêt, vous, hein, Fanny, hein, je ne dis pas
oui.
de bêtises. D'accord, ok.
En fait, je lui ai demandé s'il voulait jusqu'au 11 mai poser mes congés payés ou si je reprolongeais mon arrêt. Il m'a répondu qu'il étudiait la question et qu'il me redisait ce qu'il en était.
D'accord. Donc on est en stand-by là pour
voilà,
l'instant.
Voilà ce qu'on peut dire. Alors,
donc
Vincent.
En fait, moi j'ai rappelé ma doc qui m'a dit « Écoute, si vraiment il t'a pas certifié qu'il te posait tes congés payés, c'est toi qui es en tort, donc on a prolongé mon arrêt de travail. »
Bon, alors Vincent, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors déjà, ce que Fanny a dit et qui est juste, c'est qu'à partir du moment où il y a la déclaration d'inaptitude, donc 11 avril pour Fanny, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour réagir. Réagir, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit proposer à Fanny une proposition de reclassement. Est-ce que c'est le cas?
Oui, c'est ce qu'il est censé faire.
D'accord. Ou alors, à défaut de reclassement, avoir initié une procédure de licenciement pour inaptitude, ce qui est un motif tout à fait légal de licenciement pour un employeur.
D'accord.
Alors, si l'employeur, au bout du délai d'un mois, donc 11 mai, n'a pas réagi, la loi lui impose de reprendre le versement de votre salaire, Fanny.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire que vous pouvez très bien le mettre en demeure de réagir, mais je pense que vous l'avez déjà fait. Mais en tout état de cause, la loi vous protège, puisque, à défaut de faire quelque chose, il a l'obligation de reprendre le versement de votre salaire.
Et Fanny, elle doit prolonger son arrêt de travail ou...
Je n'en suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé que le conseil de votre médecin soit un bon conseil de vous remettre en arrêt de maladie. Alors, sauf à percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Ouais. En complément du salaire.
Ouais. Alors, en complément du salaire, si effectivement elle a l'ancienneté. Mais l'employeur peut lui considérer qu'on est reparti, en fait, dans une période d'absence. Donc, et surtout que, d'après ce que j'ai cru comprendre, Fanny, les problèmes sont susceptibles de générer une maladie professionnelle, enfin de considérer que vous êtes en maladie professionnelle. Et il faudrait quand même voir avec le médecin du travail, parce qu'en cas de maladie professionnelle, la période entre le 11 avril et le 11 mai pourrait être indemnisée par la sécurité sociale, là, pour le coup.
D'accord.
Donc, moi...
ça, il ne m'en a vraiment pas parlé, le médecin du travail.
Oui, mais peut-être que voilà, ça a été un oubli, mais je pense que moi, je reviendrai vers lui sur ce sujet-là, parce qu'en maladie professionnelle, c'est une situation particulière. Parce qu'il faut rappeler à l'attention de tous les auditeurs qu'en cas d'inaptitude, la période entre la déclaration d'inaptitude et l'expiration du délai d'un mois où l'employeur doit réagir, c'est le seul moment, en fait, où le salarié n'est pas rémunéré. Mmh. Et c'est pour ça, comme Fanny l'a précisé à l'antenne, que souvent...
On reste en arrêt de travail.
On reste en arrêt de travail, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Ouais. Ou alors, on se met d'accord pour solder les congés payés.
Donc, si je comprends bien, à partir du 11 mai, Fanny, elle n'est plus tenue d'être en arrêt de travail et son employeur, s'il n'a pas réagi, il est obligé de la payer.
C'est exactement ça.
Voilà. Et si elle veut le faire bouger...
Alors, si elle veut le faire bouger... Alors, il y a des salariés qui se satisfont de cette situation en disant, mais il doit reprendre le versement de salaire. Donc, en fait, c'est je suis chez moi et je ne travaille pas, je suis payé. Si par contre, vous voulez au plus vite, un employeur ne peut pas non plus, et c'est normal, subir cette situation trop longtemps. On ne peut pas payer quelqu'un alors que la personne est absente.
Mais donc... là, c'est lui qui ne bouge pas. Donc,
non, mais c'est, à mon avis, c'est ce qui, à mon avis, fera que cet employeur bougera pour Fanny.
Voilà Fanny!
Eh ben, je vous remercie, c'est gentil.
Bonne journée à vous. Au revoir, 03 83 36 20 20. Vos questions à Vincent Loquet jusqu'à 10h. C'est le droit du travail. Il est avocat sur France Bleu Lorraine. J'étais en train de me dire qu'heureusement que nos spécialistes ne sont pas payés à l'auditeur. Ils ne sont pas payés du tout, d'ailleurs. Voilà, parce que là, on fait
comment
un carton ce matin. Ah ben non, vous ne l'avez pas dit. Non, il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a rien quand vous venez. Hein. 03 83 36 20 20, on parle de droit du travail avec Vincent Loquet. Il est avocat, il répond direct à vos questions au 03 83 36 20 20. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels ce matin. On va tout de suite prendre Mireille qui nous appelle de Folquemont. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Votre situation m'a fait sourire alors que ce n'est pas du tout drôle, Mireille. Voilà, mais bon, racontez-nous votre histoire.
Alors, moi je suis aide à domicile depuis maintenant 3 ans et demi. Donc j'ai commencé avec un contrat de 80 heures. Ce contrat est resté quelques mois, je suis passée à 151h75, un truc comme ça. Hein. Mmh. Et là, actuellement, j'ai un contrat de 130 heures.
Oui.
Mais le souci, c'est que mon employeur, quand je ne fais pas les heures, c'est-à-dire si maintenant, là comme le mois dernier, j'ai fait 112 heures, eh ben, il ne me paye pas les 130 heures. Il me dit, voilà, c'est comme ça, chez nous, c'est comme ça.
Ben non, c'est pas comme ça, Mireille. Voilà.
Oh, mais vous êtes. Mais Vincent, mais c'est comme ça.
C'est que du bonheur. Non, mais c'est que du bonheur dans ce monde, en ce moment. Ouais.
Alors,
bah, heureusement, effectivement, le droit du travail est là pour vous protéger, Mireille. Donc,
expliquez-nous, voilà. Vincent.
Ah, ben là, je vais pas me gêner, je vais y aller. Hein. Allons-y gaiement. Hein.
Non, mais bah, tout simplement, vous avez résumé la situation et je pense que vous l'avez compris vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous avez.
Parce que j'étais un peu me renseigner à gauche, à droite, mais rien vraiment de concret.
On va laisser Vincent répondre, Mireille.
Bah, tout simplement pour dire que Mireille a un contrat de 130 heures, et ça serait la même chose s'il en avait un de 140 ou 250. Si Mireille a un contrat de 130 heures, c'est un contrat qui engage les parties. Donc ça veut dire que Mireille doit faire les 130 heures par mois pour lequel elle a été embauchée, et à contrario, l'employeur doit à Mireille les 130 heures contractuellement fixées, quand bien même l'employeur n'aurait pas de travail ou c'est avec un mois particulier, en fait, il y aurait des changements. Même si les heures ne sont pas accomplies, les heures doivent être payées à hauteur de ce qui a été contractuellement prévu.
Donc comment est-ce que Mireille peut se faire entendre? Parce qu'on comprend que de l'autre côté, il y a quelqu'un d'un peu sourd quand même.
Oui, et par rapport aux personnes qui sont un peu
sourdes.
Voilà,
comment que je dois faire, en fait, pour bien faire?
Alors, pour
comment
bien faire.
Comment je dois faire pour bien faire? Est-ce que je dois faire un rendez-vous? Est-ce que je dois en discuter avec lui? Est-ce que, voilà,
oui.
Je suis un peu perdue à ce niveau-là.
Non, mais Mireille, il faut tout simplement respecter un certain nombre d'étapes. C'est-à-dire que par rapport à quelqu'un qui ne veut pas entendre, je pense que la meilleure des façons, c'est déjà en premier lieu de solliciter un rendez-vous et de lui expliquer concrètement votre position, qui est une position tout à fait normale, en disant j'ai un contrat de travail à 130 heures, même si je ne l'ai pas fait, ce n'est pas de mon fait, donc vous devez me les payer.
Et c'est le droit du travail.
Et c'est le droit du travail, et vous pouvez le dire tout à fait gentiment et dans une bonne entente. Et si la personne ne réagit pas par rapport à cette démarche amiable, bah, la deuxième étape, c'est de lui envoyer un recommandé pour tout simplement mettre par écrit ce que vous venez de dire à l'oral, histoire de prendre date et de interrompre les délais de prescription. Et si, malheureusement, au final, malgré le recommandé, la personne ne veut pas entendre raison, bah, le conseil de prud'homme, qui est la juridiction qui règle les litiges entre les employeurs et salariés, est à votre disposition pour que justice soit rendue.
C'est un CDI, Mireille ?
Oui.
Mais, voilà, CDI, CDD, c'est la même problématique.
Mais on peut toujours avoir peur de se dire, ben, il va me licencier, quoi.
Parce qu'après, voilà, là, déjà, il me cherche des poux dans la tête, comme on dit, hein, des façons de parler. Donc après, je me dis, waouh, mais ça va encore être pire.
Oui, mais Mireille, vous serez mieux protégée en cas de menace de licenciement quand vous avez fait valoir vos droits par écrit, parce que vous avez une preuve qu'il y a un différend qui existe entre vous et votre employeur. Et si un licenciement intervient juste après, bah, le juge prud'homal aura peut-être tendance à considérer que c'est la réponse du berger à la bergère, entre guillemets, que forcément...
D'accord, et ça jouera en votre faveur.
Exactement.
Voilà, merci Mireille.
Eh ben, c'est moi qui m'en...
Bon courage.
Bonne journée. Bonne
journée.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
03 83 36 20 20, des questions à Vincent Loquet, c'est tout simple, à votre service le matin entre 9h et 10h, vous nous appelez et vous avez une réponse. 03 83 36 20 20, on parle de droit du travail ce matin. 03 83 36 20 20, vous posez vos questions à Vincent Loquet, avocat en droit du travail. On accueille Fabienne qui nous appelle de Nancy. Bonjour Fabienne.
Oui, bonjour.
On
bonjour
vous
Fabienne.
Écoute Fabienne.
Bonjour maître.
On vous écoute Fabienne.
Voilà, moi j'ai une question, je vais avoir 69 ans, je travaille toujours, je suis fonctionnaire et j'ai eu le droit de continuer une prolongation d'autorisation de travailler jusqu'à 69 ans et demi. Il y a quelques mois, j'ai voulu utiliser mon compte formation ou le clôturer. Et en fait, quand je suis allée sur le site, comme réponse, j'ai eu « Vous avez dépassé la limite d'âge ».
Alors, Fabienne, d'accord. Je ne sais pas si Vincent va vous répondre, mais en fait, Vincent s'occupe de droit privé. En fait.
Voilà. Mais bon, voilà. Voilà, je suis content d'avoir écouté Fabienne par rapport à cette problématique qu'elle expose. C'est vrai que tout ce qui concerne le droit des fonctionnaires n'est pas de ma partie.
Okay.
Mais ceci étant, ce qui est intéressant, c'est que d'après la situation que vous décrivez, il semblerait que passé un certain âge, vous ne pouvez plus utiliser en fait le compte formation.
D'accord.
Hein, donc ça ne m'étonne pas parce que le compte formation, il est fait pour maintenir l'employabilité en fait des salariés et pas non plus pour, même si c'est pas votre cas, Fabienne, forcément aller chercher une formation qui n'aurait pas ce sens-là ou qui n'aurait pas cette démarche-là. Donc très honnêtement, je ne suis pas étonné de cette réponse-là.
D'accord.
Et je ne pense pas être optimiste, même si je ne suis pas un spécialiste quant à l'utilisation du compte formation dans cette hypothèse-là.
Voilà Fabienne. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Néboja nous appelle de Neuve-Maisons. Bonjour Néboja, est-ce que je prononce bien votre prénom ?
À peu près, mais j'ai l'habitude.
Bah dites-moi, comme ça j'apprendrai quelque chose.
Ça se prononce Néboïcha.
Néboïcha, d'accord. Néboïcha, on vous écoute.
Ouais, bonjour maître.
Bonjour.
Je connais le maître Loquet, il m'avait défendu lors d'un litige avec mon employeur. Et j'ai un complément de question à avoir. En fait, quand j'étais victime de cet accident du travail, j'étais sous l'empire d'un contrat de travail, d'un contrat de prévoyance.
Oui.
Un taux d'incapacité avait été dressé qui ne suffisait pas à déclencher le contrat de prévoyance.
D'accord.
Aujourd'hui, je ne fais plus partie de cette société. Le taux d'incapacité a été réévalué et pourrait déclencher justement le contrat de prévoyance. Je voulais savoir si j'avais le droit de prétendre à une indemnité, même si effectivement je ne suis plus sous contrat de travail.
C'est rétroactif, quoi.
Ouais.
C'est pas ça, c'est qu'en fait j'étais sous l'empire du contrat de prévoyance au moment du fait générateur de cette accident.
Ouais. Alors, le droit, Néboja, vous l'avez. Pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous pouvez solliciter l'application du contrat de prévoyance qui était en vigueur au sein de cette entreprise au moment où les faits sont survenus. Simplement, je me pose la question de savoir si vous avez intérêt à le faire. Parce que au moment de l'accident du travail et des arrêts de maladie qui ont suivi en conséquence, vous avez touché les indemnités journalières de la Sécurité sociale majoré en fait en raison en fait de la législation sur l'accident du travail ou les maladies professionnelles, c'est bien le cas ?
Je ne crois pas.
Parce que s'il y a eu accident du travail ou maladie professionnelle, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont forcément des indemnités majorées par rapport au régime normal, d'accord ?
Ah OK, ouais, je sais qu'il y avait un complément du régime.
C'est normal. Alors justement, c'est là où il faut faire très attention parce que si vous sollicitez la prévoyance, la prévoyance, elle est là pour assurer le complément par rapport aux indemnités journalières normales de la Sécurité sociale. Donc la question à se poser, c'est est-ce que, finalement, la Sécurité sociale, voyant que vous touchez sur la même période la prévoyance, ne viendrait pas vous demander un remboursement de la majoration que vous avez perçue, puisqu'on ne peut pas toucher non plus. Le grand principe aussi, c'est qu'on ne peut pas gagner plus en maladie que l'on ne gagnerait en situation normale.
Mais est-ce qu'il y a une...
En fait, je me suis mal exprimé. C'est-à-dire que ce compte à prévoyance, il serait censé déclencher une rente d'incapacité.
Voilà.
Ah oui, d'accord,
plus longtemps.
D'accord, oui, ouais. Bah ça la rente. Oui,
fait,
oui.
C'est, Oui. C'est pas l'arrêt de travail en tant que tel,
d'accord,
c'est majoré.
Oui.
C'est vraiment le déclenchement du
une rente pour aujourd'hui.
Mais bien,
quoi,
mais voilà, bien sûr, puisque demain. Dans ces cas-là, le contrat de prévoyance va prendre en compte le fait générateur, et le fait générateur, il a eu lieu au moment où vous étiez dans cette entreprise, couvert par ce contrat de prévoyance.
Donc, petite lettre à l'employeur.
Petite lettre à l'employeur, copie en fait à l'organisme de prévoyance, et puis on voit si ça fonctionne.
Oui, bon, ben voilà. Okay,
parce que j'ai bien entendu, j'ai averti l'employeur, et il ne répond pas, il fait lettre morte, quoi.
Oui, comme toujours, dans ces cas-là, il faut aller plus loin, c'est-à-dire, dans ces cas-là... éventuellement saisir la juridiction, saisir un avocat, saisir
quelqu'un
susceptible
de vous aider. Je sens que vous allez revoir Maître Loquet et Nebuchadnezzar, je ne sais pas pourquoi.
Ouais, mais je souriais justement en écoutant la chanson de Beko, je reviens te chercher. Ouais.
C'était pour vous. Voilà. Okay. C'est bien de le prendre avec le sourire.
À bientôt alors, Nebuchadnezzar.
C'est quand même un peu épuisant ce genre de choses. On vous embrasse, bon courage Nebuchadnezzar, bonne journée à vous. Patrick, je vais vous faire patienter. Encore. Il est là, Patrick. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Nathalie. Bonjour, maître.
Bon, Patrick, on n'est plus à 3 minutes près. Je vous fais patienter.
Ok.
Hein, je vous embrasse. En attendant, on écoute la chanson de George Michael, I Want Your Sex. C'est sur France Bleu Lorraine. Et vos questions, vos appels à maître Loquet, Vincent Loquet, avocat, c'est droit du travail ce matin jusqu'à 10h sur France Bleu 03 83 36 20 20. On est avec Vincent Loquet qui est avocat. C'est le droit du travail ce matin sur France Bleu. Et vos questions au 03 83 36 20 20. On accueille Patrick, maître qui nous appelle de Moncel-les-Lunéville. Bonjour Patrick.
Bonjour Nathalie, bonjour maître.
On vous écoute Patrick.
Alors voilà, je travaille, on a une petite entreprise familiale, je travaille avec mon fils qui est gérant, moi j'ai des parts dans la société, et je prétends partir en retraite le 1er avril l'année prochaine.
Et vous êtes salarié ?
Je suis salarié. Mmh. Et ma question, est-ce que je peux continuer prendre ma retraite, mais continuer à travailler avec eux en sous-traitance. Est-ce qu'il n'y a pas un laps de temps ?
Il n'y a pas 6 mois
Non, plus maintenant.
Non, plus maintenant
en fait. Donc le délai pour pouvoir reprendre une activité professionnelle, qui était de 6 mois effectivement avant, n'existe plus, Patrick. Donc vous pouvez reprendre une activité professionnelle chez le même employeur.
Oui.
Immédiatement après avoir fait valoir vos droits à la retraite. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci.
Okay.
Après, c'est sous quel statut ? Sous statut d'indépendant ?
C'est une SARL qu'on a fait.
L'entreprise actuelle ou celle dans
l'entreprise actuelle, c'est une SARL.
D'accord.
Moi, donc, je suis salarié et c'est mon fils le gérant.
Oui, tout à fait. C'était pas ça ma question, Patrick. Ma question, c'est pour poursuivre cette activité, vous dites que vous allez le faire en indépendant, mais sous quel statut ?
Je sais pas si je peux le faire en indépendant.
Si, vous pouvez le faire, oui.
Si je peux rester sur... je me mets indépendant, mais je suis sous-traitant pour eux.
Alors, vous pouvez le faire sous statut salarié ou sous statut d'indépendant. Vous pouvez de nouveau être embauché par la même entreprise, si vous le souhaitez, et cumuler emploi-retraite. Et vous pouvez le faire sous statut salarié ou sous statut indépendant. Mais par contre, ce qui est différent, c'est le montant des revenus que vous pouvez tirer de cette activité selon votre statut. Je résume. Si vous continuez au sein de la même structure en qualité de salarié, vous pouvez percevoir un revenu de salarié à condition que retraite plus nouvelle activité de salarié ne soit pas supérieure au revenu que vous aviez au cours des 3 derniers mois avant votre retraite.
Mmh. D'accord.
Voilà. Soit vous allez en régime
indépendant,
auto-entrepreneur, etc. Et dans ce cas-là, le revenu que vous tirez de cette activité d'auto-entrepreneur ne doit pas être supérieur à la moitié du plafond de la sécurité sociale annuel,
qui est à peu près
34 000 euros. Donc vous ne devez pas en tirer plus de 16 ou 17 000 euros.
Voilà.
D'accord.
Voilà Patrick.
Autrement, si je continue comme eux, comme ça, l'essentiel c'est que j'arrive au même salaire, ma retraite plus...
Voilà, exactement. Voilà. Oh, et alors, il faut faire la moyenne des 3 derniers mois avant votre retraite.
Voilà. Et je vous remercie.
Merci Patrick.
Au revoir Patrick.
Bonne
journée
à vous. Catherine est à Lunéville. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour.
Bonjour Catherine.
On vous écoute.
Voilà, donc je vous téléphone pour savoir si il me semble que je vous ai entendu dire qu'on pouvait remonter pour les congés payés en maladie jusqu'en 2009.
Oui,
exactement. Ça veut dire que vous êtes très bien entendu et très bien écouté, Catherine. Bon. Voilà, donc vous pouvez y aller effectivement et en remonter jusqu'en 2009 par rapport à la situation.
D'accord. Donc j'ai été en maladie, il me semble, en 2011 dans une société pour laquelle j'y suis plus depuis 2014.
Ah, par contre, là, je vous arrête tout de suite, Catherine, parce que si le contrat a été rompu en 2014, ça veut dire que vous n'êtes plus à même de faire valoir vos droits, puisque vous aviez un délai de 3 ans à partir de la rupture du contrat.
pas. Là, il me semblait bien que c'était ça, mais bon, voilà. Je n'étais pas...
Mais on a tenté quand même.
Mais votre question est intéressante parce qu'elle permet d'éclairer tous les auditeurs sur la réalité d'une situation. Et voilà, donc vous pouvez remonter à 2011, mais à la condition que votre contrat de travail, en l'occurrence, soit a été rompu depuis moins de 3 ans, soit toujours en vigueur. Quoi.
Voilà, d'accord. Catherine.
Il faut toujours être dans la même société pour remonter jusqu'à...
Ou l'avoir quitté depuis moins de 3 ans.
Voilà Catherine, bonne journée à vous.
Merci.
Au revoir. Rose sera notre dernière auditrice ce matin. Rose qui nous appelle de Saint-Dié. Oh, c'est un point très précis, on vous écoute Rose.
Bonjour.
Bonjour Rose.
Bonjour maître. Oui, j'appelle, c'est un petit peu délicat parce que j'ai hésité à appeler.
Allez-y,
voilà, je travaille depuis bientôt 15 ans dans un cabinet d'avocat.
Oui, je vois ça parce que vous faites référence à des points que je connais.
Voilà, et j'ai une question parce que j'ai jamais réussi à avoir véritablement de réponse. C'est concernant la formation qu'on m'a proposée à mon embauche, une formation UNADEP, que vous devez connaître.
Bien sûr.
Et que j'ai acceptée, donc que j'ai suivi depuis, j'ai commencé en 2009, donc j'ai été embauchée en mai 2009. J'ai commencé ma formation en septembre 2009, donc j'ai fait les deux premières années pour avoir le diplôme de secrétaire juridique. Donc que j'ai passé, que j'ai obtenu et j'ai obtenu avec la mention très bien. Mmh. Ensuite, j'ai passé les deux années suivantes, c'était à Metz, donc on y va.
Rose, je vais vous demander d'accélérer parce que malheureusement, il ne reste plus qu'une minute. Donc en fait,
votre question,
c'est que votre employeur ne prend pas en compte ses formations dans votre rémunération.
Pas complètement, pas en partie, et malgré ma demande. Donc j'ai fait les quatre ans, donc je suis assistante juridique. C'est deux fois deux ans. J'ai commencé la cinquième année de spécialisation, je suis pas allée au bout, mais pour des raisons personnelles et familiales. Malgré tout, ces quatre années, les points UNADEP n'ont pas été répercutés sur mon bulletin de salaire.
Alors, est-ce que c'est normal et quels sont les recours pour Rose?
Alors, par rapport à Rose, c'est-à-dire que l'UNADEP, pour expliquer aux auditeurs, c'est une formation spécifique au cabinet d'avocats qui permet d'avoir en fait un secrétariat spécialisé avec des compétences très particulières. Quelle est votre classification, Rose, sur votre bulletin de salaire? C'est-à-dire, quel est le coefficient qui vous a été alloué?
Eh ben, le coefficient, c'était le coefficient de base de dactylo, sténodactylo à mon embauche.
D'accord.
Qui n'a pas bougé pendant 10 ans.
C'est ça qui n'est pas normal. Parce que, bon, à chaque compétence acquise, il y a forcément une classification qui va avec et le salaire qui va avec. Moi, ce que je vous engage à faire, parce que votre démarche, elle est fondée, si vous avez suivi l'UNADEP avec succès, vous devez avoir, bien évidemment, la classification qui va avec et la rémunération qui va avec. Il n'y a pas de raison. Donc, tout avocat qu'il soit, votre employeur se doit de respecter la loi.
Il n'est pas avocat en droit du travail, votre employeur.
En tout état de cause, votre démarche, elle est fondée, Rose. Elle est fondée.
Oui, oui, mais c'est compliqué de demander et
comme
puis d'obtenir. Juste une petite chose, c'est que maintenant, après avoir réclamé, les points, je les ai sur mon salaire actuel, mais il y a eu une mise à jour qui a été faite en 2022, mais pendant 8 ans, j'ai pas eu ces points-là.
Alors en fait, vous pouvez juridiquement parlant remonter en arrière, mais dans la limite de 3 ans, Rose. Voilà.
C'est pour ça qu'on ne m'a pas tout payé, mais pourtant je l'ai réclamé tous les ans.
Et dans ces cas-là, toute la partie non obtenue dans la limite de 3 ans en arrière par rapport au moment où vous allez...
Déclenchement de l'affaire par rapport à la première lettre, en fait, au premier...
Ça pourrait être considéré comme interruptif de la prescription. Donc moi, je vous engage à agir.
Il y a eu une lettre ou il y a eu juste un échange, Rose?
Il y a une lettre que j'ai pas osé envoyer, recommander parce qu'on m'a dit ça se fait pas. On peut en parler, quand on en a parlé, ça n'a jamais abouti.
Ouais.
Mais j'en ai parlé tous les ans. D'accord.
Malheureusement, il faut toujours se conserver une preuve, Rose. Donc s'il y a un courrier, si c'est pas en recommandé, au moins qu'on ait en bas du courrier la signature de l'employeur pour attester qu'elle a été reçue.
Ça acte le début.
Bien sûr.
Merci beaucoup, Rose, et merci à Vincent.
Bon courage.
4 semaines avec déjà beaucoup de questions en attente. Et vous pouvez continuer à nous appeler au 03 83 36 20 20. Cette émission, vous la réécoutez sur francebleu.fr. Merci Vincent, bonne journée à vous.
À bientôt.
Au revoir.